Bon dimanche matin sur France Culture. L'émission que vous allez entendre a été diffusée fin octobre 2009, en pleine épidémie de grippe H1N1.
Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. L'exposition au risque, aspect technique et social. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Marc Poumader. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue social de formation. Vous êtes directeur de programme à l'Institut Simlog, association créée dans les années 80 pour la recherche et l'intervention en analyse des risques. Dans un premier moment, je voudrais vous demander successivement, quelle est, Marc Poumader, votre définition du risque? Quel est votre parcours personnel dans ce domaine que vous explorez depuis plus d'une vingtaine d'années? Comment opéreriez-vous une typologie du risque, tant il est vrai que de la vache folle aux vagues de chaleur, des déchets radioactifs au tabac en passant par les pandémies, je pense à H1N1 aujourd'hui, jusqu'aux ondes électromagnétiques, le domaine du risque semble aujourd'hui illimité.
Oui, tout à fait. Alors, on peut commencer effectivement avec des définitions, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je vous en propose quelques-unes plutôt que d'essayer de faire une synthèse personnelle. Il y a celle qu'utilise Paul Slovic, donc chercheur américain dans le domaine de la perception des risques, qui nous dit que le risque, c'est ce qui est perçu comme une menace envers soi, ses proches, et aussi envers ce à quoi on est attaché. Alors, les biens matériels, mais aussi le cadre de vie et le style de vie. On peut penser aussi à la définition d'Anthony Giddens, un chercheur anglais, et qui insiste sur le fait que la notion de risque s'est construite pour signifier la connaissance d'une possibilité d'accident ou plus largement d'un événement redouté. Donc on connaît cette possibilité et en même temps on est dans l'impossibilité de supprimer totalement cette possibilité. Donc d'où les difficultés que l'on connaît pour informer, pour communiquer, sur les risques. Alors si on voulait, on pourrait ajouter l'approche de Jean Baudrillard, bien qu'elle n'ait pas porté explicitement sur le risque, mais il s'était intéressé à la situation des cités opulentes qui se voyaient menacées par les barbares, et il faisait le lien avec notre situation contemporaine où les médias nous apportent à domicile donc des descriptions de catastrophes qui arrivent partout dans le monde. Et selon lui, c'était un moyen indirect pour que nous nous sentions à l'aise dans le confort occidental. Voilà, donc ce sont des visions un peu différentes, mais je crois qu'ils donnent une idée de ce que peut être le risque dans son contexte social et psychologique.
Alors, votre parcours personnel dans ce domaine?
Alors, j'ai commencé par des interventions psychosociologiques, comme on les appelait à l'époque, dans les centrales nucléaires notamment, et aussi sur des plateformes d'exploration offshore, donc tous les systèmes complexes qui effectivement gèrent les risques. Et puis, il s'est trouvé que le 26 avril 1986, il y a eu l'accident, comme chacun sait, de Tchernobyl.
Bien sûr.
Et donc là, j'ai été nommé conseiller de l'OMS pour évaluer les conséquences psychologiques et sociales de l'accident sur les territoires contaminés. Et donc, je suis devenu sensible aussi aux situations des populations quand elles sont exposées donc aux conséquences d'accidents graves. Donc, c'est un petit peu cette base à la fois intra-organisationnelle et attention aux situations des populations que j'ai construit ma pratique et mes réflexions.
Et alors maintenant, des plateformes offshore jusqu'aux centrales nucléaires, jusqu'aux pandémies, quelle typologie du risque vous pourriez esquisser pour les auditeurs?
Peut-être qu'on peut imaginer un dessin à la radio, donc ce serait une matrice avec trois lignes, trois colonnes. La première ligne, ce serait donc les sciences de l'ingénieur et de la matière, la physique, avec une discipline appliquée qui est celle de la fiabilité, on en parlait à l'instant, donc qui concerne tous les systèmes complexes, aussi bien des systèmes industriels, mais aussi on peut penser à l'aviation, donc qui sont à la fois très performants, mais en cas d'accident, bon, les conséquences peuvent se révéler catastrophiques. Ensuite, le deuxième ligne, ce serait les sciences du vivant, la biologie. Et là, les disciplines appliquées sont la toxicologie, l'écotoxicologie, l'épidémiologie, donc tout ce qui traite des risques sanitaires. Et enfin, en troisième ligne, on a les sciences humaines et sociales, l'économie, qui va travailler sur les approches coût-bénéfice, le droit, qui va travailler par exemple sur le principe de précaution avec la philosophie, la gestion des entreprises, la psychologie, la sociologie, notamment pour approfondir toutes les questions qui traitent de la prise de décision, de la perception des risques, des questions d'éthique, de gouvernance des risques avec la participation des parties prenantes. Donc ça, ce sont les lignes. Et en colonne, on peut imaginer donc les acteurs, avec notamment les pouvoirs publics, qu'ils soient locaux ou internationaux. Donc les ministères, les agences. Un autre acteur, évidemment, ce sont les industries à risque, dont on a déjà un petit peu parlé. Et puis le milieu académique. Donc on a cette matrice où les acteurs et les disciplines convoquées quadrillent le domaine de façon globalement efficace. Donc par rapport aux objets et situations que vous avez cités, il s'agit de se les représenter dans une cellule ou bien parfois elles peuvent couvrir tout le champ comme les accidents du type de Tchernobyl.
Vous avez, au mois d'avril-juin 2009, fait paraître un très court article bien remarquable dans la revue de l'AFIS, intitulé « Des feux de Moiran en montagne » ou « L'expertise en situation de crise ». Et j'aimerais que pour nos auditeurs, vous reveniez rapidement sur cette histoire tout à fait exemplaire et qui m'a rappelé dans son principe celui de l'alliance intelligente du politique, du social et de l'expertise, qui m'a rappelé donc cet autre événement auquel nous avions consacré une émission ici à l'Union Rationaliste avec Guilain de Marcilly, qui était une émission sur l'affaire de la décharge des déchets toxiques de Montchanin. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu des feux de Moiran ?
C'est un cas très, très particulier, puisque la ville de Moiran en montagne avait décidé d'enfouir une ligne à haute tension de 20 000 volts utile pour l'industrie locale du jouet. Et puis, 6 mois donc après cet enfouissement, des incendies inexpliqués à répétition se sont produits dans la ville. Donc c'était une situation éprouvante, il y a eu 2 morts. Plusieurs types d'expertises ont été convoqués pour analyser la situation et trouver les causes de ces incendies. Et en même temps, dans cette situation effectivement éprouvante, la population locale a eu recours à des légendes liées à son histoire pour tenter de construire du sens autour de ces événements qui n'étaient pas expliqués, qui étaient inexplicables, malgré... Encore une fois, la diversité des expertises. Donc on a eu affaire à une situation où les gestionnaires locaux, le maire notamment, a ouvert la situation pour justement accommoder des niveaux de rationalité instrumentale, recherche des causes, mais aussi une rationalité sociale avec une grande attention à la situation de la population et encore une fois, ses efforts pour construire du sens dans une situation qui en était temporairement dépourvue. Parmi les recherches de causalité, les gendarmes continuaient sur la piste d'une action criminelle et ils ont effectivement découvert un pyromane, ce qui est le cas de la plupart des incendies. Alors, il y avait une expertise qui avait porté sur les causes des experts en incendie, mais ils avaient abandonné la piste d'un pyromane parce qu'ils ne trouvaient pas des traces d'accélérateur. Donc, ça veut dire aussi que les hypothèses autour de la ligne à haute tension comme suspect important ont sans doute influencé la situation. Et ça montre aussi qu'une population peut être ambivalente à propos d'une technologie, puisque cette technologie avait été acceptée socialement, localement, au moment de l'enfouissement. Mais 6 mois après, quand il y a eu cet événement, elle est apparue suspecte.
Une hostilité, voilà. C'est un très bel exemple. Et donc, on peut renvoyer à cette revue de l'AFIS où vous avez fait paraître ce bel article. Alors, ce mois-ci, actualité de ce mois d'octobre, sur le site de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, l'AFSET, paraît un rapport d'expertise collective sur les risques sanitaires des radiofréquences, c'est-à-dire de la téléphonie mobile, rapport auquel vous avez participé en tant qu'expert des sciences humaines et sociales du risque, sujet qui semble beaucoup mobiliser l'opinion en France et qui intéresse particulièrement. Alors, je voudrais vous poser là encore successivement 3 questions. Celle du cadrage initial, celle de la distinction que vous aimez produire et qui me paraît très intéressante entre un objet physique et un objet social. Enfin, celle aussi qui me passionne, du lien entre les polémiques et la dangerosité réelle d'un produit. Donc, premier point sur le cadrage.
Alors, le cadrage de l'AFSET, qui avait déjà conduit des expertises donc sur les radiofréquences, le cadrage initial, c'est celui de l'objet physique, justement, qui s'appelle des radiofréquences, alors que ce n'est pas un terme tellement utilisé couramment. On pense plutôt aux applications, téléphonie mobile, Wi-Fi, et toutes autres applications.
Ondes. Voilà. Ce qui produit des ondes.
Voilà. Et donc, si vous vous souvenez de la matrice qu'on a évoquée, donc on est dans la catégorie...
Du système complexe.
Voilà, système complexe, technologie, fiabilité des installations. Et il ne faut pas oublier non plus que la diffusion de la téléphonie mobile sur le territoire français est une décision gouvernementale, nationale. Mmh. Ça fait partie des grands travaux pour lesquels des opérateurs ont été retenus. Et donc, au départ, c'est une affaire, donc, encore une fois, de physique et d'ingénierie. Alors, sont apparus des enjeux de risque sanitaire. Donc là, d'autres experts arrivent sur scène, donc des biologistes, des médecins, des épidémiologistes, des toxicologues.
De la deuxième catégorie.
Voilà, la deuxième catégorie. Et là, déjà, on a une interface intéressante, un dialogue, puisque pour évaluer les risques sanitaires des radiofréquences, il faut dialoguer avec les physiciens pour savoir quelles sont les doses, les expositions. Donc, une première catégorie d'exposition. Et puis, troisième niveau, une certaine innovation donc, pour cette expertise à la SED, d'introduire les sciences humaines et sociales, ainsi qu'un observateur, membre extérieur, donc qui ne participe pas vraiment à l'expertise, mais qui était présent, donc un observateur qui venait du monde associatif. Et donc, si l'interface physique-biologique a été parfois difficile, vous imaginez que les interfaces entre biologie, physique et sciences humaines et sociales du risque n'allaient pas de soi non plus. L'un des enjeux, effectivement, ça a été de considérer la téléphonie mobile, donc les applications des radiofréquences, les objets, non pas seulement comme des objets physiques, mais aussi comme des objets sociaux. Quand une personne tient un téléphone mobile dans sa main, elle ne pense pas tenir des radiofréquences, elle tient quelque chose qui lui permet de parler à ses proches, de faire des blagues au téléphone, enfin tous les usages possibles. Autant d'abonnements, c'est-à-dire à peu près 60 millions que d'habitants, et sur la planète, c'est 4 milliards d'abonnements.
Et tout sur ça, 6 milliards et demi
voilà,
d'habitants.
Voilà, donc tout ça dans une période d'une dizaine d'années.
Ce sont des chiffres absolument affolants. Et voilà. On les explique en se disant qu'il y en a certains, évidemment, qui ont plusieurs abonnements. Voilà, oui. Comme en France, 60 millions d'abonnements téléphoniques sur 60 millions d'habitants. Oui, c'est très impressionnant.
Et donc, c'est le premier niveau important, cet aspect quantitatif de la diffusion massive, soudaine, et quels effets cela peut... induire dans la vie. Le deuxième niveau, ce sont la quantité d'études scientifiques qui ont été consacrées à la téléphonie mobile et aussi l'écho que ces études, dont les résultats à un moment sont parus contradictoires, et donc qui ont été repris dans la presse et des préoccupations que l'on peut retrouver dans le public à propos donc de ces ondes et des effets qu'on leur attribue sur la santé. Donc, effectivement, introduction de la téléphonie mobile comme objet psychologique et social, comme contribution à l'expertise sur les risques.
Alors, est-ce que vous pourriez éclairer pour nos auditeurs, justement, le lien entre les polémiques autour de cet objet et la dangerosité réelle du produit ? Parce que là, il y a encore peut-être un hiatus dans la question du risque.
Oui, alors, bon, les polémiques sont associées classiquement au risque technologique. Dès 1984, un chercheur américain, Van Winterfeld, a trouvé dans un article, il a mentionné dans un article, 162 cas de controverses liées au risque technologique. Donc, c'est presque systématique quand une technologie nouvelle apparaît, qu'elle suscite l'intérêt, des préoccupations, des discussions. On peut penser que ça contribue à une forme d'appropriation sociale, indirecte.
Je pense à Platon, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ. Enfin, Platon regardait l'écriture comme nouvelle technique d'un œil méfiant. Enfin, c'est pas...
Très bien, c'est une bonne référence à ajouter.
Ça suscite la polémique quasi systématiquement, les inventions nouvelles.
Voilà, et donc ça nous amène au troisième point que vous aviez proposé, c'est le lien éventuel entre les polémiques et la dangerosité des produits ou des objets. Alors là, il se trouve qu'il n'y a pas de lien automatique. Une situation, un objet peut faire l'objet d'une polémique sans qu'une dangerosité soit avérée. C'est un petit peu le cas pour ce que j'en ai compris globalement du rapport d'expertise produit par l'AFSET, mais chacun peut regarder en détail les travaux.
Sur le site de l'AFSET,
sur
justement.
Sur le site de l'AFSET. Et puis, d'autres situations, une absence de polémique peut accompagner une situation grave en termes d'impact sur la santé. Ça a été le cas de la canicule en 2003, aussi bien en France que dans d'autres pays en Europe, puisqu'en France, il y a eu 20 000 décès supplémentaires pendant l'été 2003 et 70 000 au niveau européen. Alors que le risque lié aux vagues de chaleur, qui était connu médicalement, biologiquement, physiologiquement, ne faisait pas l'objet d'une attention collective particulière.
Alors ce que vous nous expliquez, Marc Poumader, c'est que précisément, il n'y a pas de lien de proportionnalité entre les polémiques autour d'un objet technique et le risque réel de cet objet, ce que, semble-t-il, la téléphonie mobile indique.
Voilà, alors peut-être qu'on peut parler de dangerosité, parce que bon, on peut dire que le risque réel, c'est un petit peu un hybride entre la façon dont il est construit socialement et ses caractéristiques physiques, d'une certaine façon. Mais c'est vrai que ce lien n'est pas automatique ni direct. Donc une attention des politiques doit s'exercer aussi sur des situations, des objets qui n'attirent pas l'attention du public.
Marc Poumader, je vous remercie.